Bonjour, je m'appelle Ludivine et bienvenue à toutes et à tous dans votre podcast Les Engagés avec Radio Fréquence Mauges.
Bonjour à tous, moi c'est Germain. Donc on est trois étudiants en BUT carrière sociale, parcours animation sociale et socioculturelle au sein de l'UT de Cholet.
Et moi c'est Lenny. Ensemble on vous propose des échanges autour de la thématique qui nous tiennent à cœur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on voulait vous expliquer pourquoi on a choisi de parler de la protection animale.
Comme l'a dit Lenny, c'est un sujet qui nous touche beaucoup tous les trois. Les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, sont souvent victimes de négligence humaine et leur protection est essentielle.
La cause animale, c'est également une question de respect, de sensibilisation et de responsabilité collective. Chacun peut agir à son propre niveau.
Et aujourd'hui, à travers notre échange avec l'association SOS Hérisson, on va découvrir comment on peut aider ces animaux trop souvent oubliés.
On a donc la chance d'accueillir aujourd'hui une invitée très spéciale, donc une représentante de SOS Hérisson, qui est une association qui œuvre la protection et la sauvegarde de ces petits animaux, les hérissons.
Donc, bonjour Hélène de Romans, on vous accueille aujourd'hui.
Bonjour.
Donc, présidente de l'association SOS Hérisson, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos auditeurs?
Oui, j'habite dans les Mauges, j'habite à Sainte-Christine et j'y habite depuis 8 ans. Avant, j'habitais à côté d'Angers, près de Brissac. Et c'est là que j'ai créé, il y a 17 ans, après une rencontre avec un bébé hérisson, une association que j'ai appelée SOS Hérisson 49. Cette rencontre était très fortuite. C'était un soir de novembre. Et j'ai trouvé une toute petite bête, grosse comme une balle de golf, sous une boîte aux lettres. Et je l'ai ramassée. Elle avait très, très froid. Je ne savais pas du tout quoi faire. J'ai regardé sur Internet et j'ai vu qu'il y avait une association qui s'appelait le Sanctuaire des Hérissons dans la Somme. J'ai appelé et je suis tombée sur une femme absolument extraordinaire qui est la fondatrice du réseau des centres de faune sauvage dédiés à cette espèce. Et elle m'a expliqué comment faire, elle m'a suivie. Et puis, quand la petite hérissonne, puisque c'était une femelle, a été élevée, elle m'a demandé si je voulais... créer quelque chose en Maine-et-Loire où aucun centre n'existait. Donc j'ai accepté. Et c'est elle qui recevait les appels et qui m'envoyait tous les appels qu'elle recevait venant du Maine-et-Loire. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et aujourd'hui, on est une très, très grosse association pour plusieurs raisons. D'abord parce que on répond au téléphone H24 toute l'année, alors que beaucoup de centres ferment et ne peuvent être contactés que par mail. Nous, on est toujours, toujours, toujours ouverts, ce qui est très, très lourd à gérer, mais qui nous permet de drainer énormément d'appels. Pratiquement tous les appels du Maine-et-Loire et puis aussi de certains départements autour du Maine-et-Loire qui n'ont pas de centre ou dont les centres sont fermés.
Ok, ok. Et pourquoi les bénévoles ils s'engagent dans cette association?
Alors, généralement, on tombe dans le panneau, hein, si je puis dire, quand on rencontre un animal en détresse. Et c'est vrai que le hérisson est un animal fascinant pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un animal préhistorique. C'est le dernier mammifère préhistorique vivant. Il a connu les mammouths, il a 15 millions d'années et il n'a jamais évolué. Il n'a jamais eu besoin d'évoluer parce que sa carapace de piquant et puis son mode de vie le mettaient à l'abri de tous les dangers jusqu'à ce qu'il rencontre l'espèce humaine et que l'espèce humaine ait envahi son territoire et lui ait causé beaucoup, beaucoup d'ennuis. Et aujourd'hui, le hérisson est menacé d'extinction et sa disparition est vraiment quasi imminente.
Et d'où est-ce qu'il vous vient un tel engagement pour être aussi engagé dans les associations telles que pour les hérissons?
Parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens n'arrêtent pas de dire que ça ne va pas, que tout va mal, etc. Et je pense qu'au lieu de râler, il faut essayer de faire quelque chose. Moi, j'ai toujours aimé les animaux et j'ai toujours été sensible à la cause animale. On ne peut pas sauver le monde entier, donc il faut essayer de trouver quelque chose. Et j'aurais pu effectivement m'occuper des chiens ou des chats. J'ai trouvé que cette espèce était intéressante parce que justement, elle est méconnue et puis parce que c'est une grosse entreprise, mais avec des possibilités de résultats qui peuvent se dupliquer pour d'autres espèces. Qu'on fait pour les hérissons, on peut le faire pour les oiseaux, on peut le faire pour les chauves-souris, on peut le faire pour plein d'autres animaux. Parce qu'on se rend compte qu'en France, en Europe, peut-être même ailleurs d'ailleurs, on n'a jamais rien fait pour la biodiversité. On a toujours vécu aux dépens des animaux. On les considère comme à notre service. On les mange, on les stocke, on leur fait tout un tas de traitements affreux. Et quand il s'agit d'espèces sauvages, soit on les chasse, soit on les piétine, soit on les ignore complètement. Donc il faut réhabiliter la biodiversité parce qu'on est peut-être au sommet de l'échelle du vivant, nous, mais ça nous donne des responsabilités et vraiment on se rend compte qu'aujourd'hui, si on continue sur la lancée sur laquelle on est, ben, c'est nous qui allons mourir. Hein. Il n'y aura plus d'humains, mais les animaux, ils survivront d'une manière ou d'une autre. Soit des espèces disparaîtront, soit il y en a d'autres qui viendront les remplacer. Mais on ne peut pas vivre si le système du vivant est perturbé comme on le perturbe aujourd'hui. Donc voilà, moi plutôt que de râler, et puis parce que j'ai des petits-enfants et que j'ai pas envie qu'on leur laisse une planète invivable, ben, je me suis engagée. Et puis je pense qu'on peut pas faire ce genre de choses à moitié. Généralement, on fait plus d'ailleurs que ce qu'on pensait possible au départ. Mais vous avez un appel, vous arrivez à recueillir un animal, vous avez un deuxième appel, vous arrivez à le placer. Au 30e appel en 48 heures, ben, vous avez du mal, mais vous le prenez quand même parce que vous vous dites, si je ne le prends pas, ben, qu'est-ce qui va lui arriver ? Donc, et pourquoi lui ? Donc, on est pris dans un engrenage.
Merci. Et on voulait savoir quels sont les différents profils et métiers que vous possédez au sein de votre association ?
Alors, on a d'abord des urgentistes qui sont les personnes qui sont formées et habilitées à les recevoir. Alors, on n'est pas vétérinaire, mais on prépare et on passe ce qu'on appelle un capacitaire soins faune sauvage. Ça peut être un capacitaire mono-espèce, c'est mon cas, ou multi-espèce. Et c'est un capacitaire qui permet, après une soutenance auprès de la direction de protection des populations, d'ouvrir un centre de soins et de recueillir des animaux et de les soigner, avec des partenariats avec des vétérinaires qui s'intéressent au sujet. Donc ça, c'est un premier métier. On a des gens qui s'occupent de communication, qui s'occupent du mécénat, qui s'occupent des comptes, de la trésorerie, qui s'occupent de recruter des bénévoles. On a besoin de rapatrieurs, on a besoin de personnes qui répondre au téléphone, on a besoin d'informaticiens. On est une des très rares associations à ne pas remplir des documents CERFA à la mimine, mais à avoir une véritable base de données où tous les hérissons sont rentrés quand on a un coup de fil, identifiés par le numéro de téléphone du découvreur et ensuite dotés d'une fiche d'identité qui permet de rendre compte aux instances de contrôle, parce qu'on n'a pas le droit de posséder des espèces protégées sans toujours être en capacité de dire où ils sont. Mais ça nous permet aussi de calculer notre taux de réussite, le nombre de hérissons décédés, le nombre de bébés qu'on a réussi à sauver, le nombre de blessés qu'on a réussi à sauver, le nombre de malades. On fait aussi des études par catégorie, par sexe, par saison. On sait que les mâles, c'est surtout au mois de mars, quand ils sortent d'hibernation, qu'ils sont en danger parce qu'ils patrouillent pour trouver des partenaires. Ensuite, ce sont le jardinage effréné des gens au mois d'avril qui fait qu'on les passe à la débroussailleuse ou à la tondeuse. Et je ne vous dis pas dans quel état ils en sortent. Ensuite, c'est les petits qui n'ont plus de mère parce qu'elles se sont fait écraser, sont tombées dans les piscines, un chien les a mangées et qui se trouvent orphelins et traînent sur les routes ou dans les jardins au soleil où les pies, les mouches, tout un tas d'animaux leur font la peau. Hein, c'est exactement ça. On a un petit répit au mois de juin et après ça, ça recommence au mois de septembre où on a ce qu'on appelle les bébés d'automne, hein, les orphelins d'automne, c'est toutes les secondes portées pour lesquelles les mères sont à nouveau pas là. Et Et ça, ce sont des hérissons qu'on ne va pas pouvoir remettre en liberté avant l'hiver parce qu'ils ne sont pas assez gros pour hiberner, ce qui nous impose une grosse capacité de stockage, entre guillemets, parce qu'il va falloir les garder jusqu'au printemps. Et bon an, mal an, on est sur une croissance qui continue depuis 17 ans, puisqu'on a commencé à une trentaine de hérissons, et aujourd'hui, on va dépasser les 1500. Donc, il faut trouver des espaces de réinsertion. On ne peut pas les remettre là où ils étaient, parce que s'ils ont été mordus par un chien, ou qu'ils sont tombés dans une piscine, ou qu'ils ont été bousculés par une voiture, ou que... ils ont été pris dans des grillages ou que les gens jardinent tout autour, on est sûr qu'on ne va pas pouvoir les remettre là. Donc il faut qu'on leur trouve des endroits où il y a quand même une certaine surveillance, où on les met généralement chez des agriculteurs bio, des maraîchers bio, des viticulteurs bio, des gens qui ont arrêté le cycle infernal des pesticides et qui s'appuient justement sur ces espèces-là qui mangent des insectes et qui sont très utiles.
Voilà, très intéressant. Avant de continuer, on va vous proposer d'écouter un morceau qui, sans parler directement des animaux, mais fait écho à l'urgence d'agir pour la planète et protéger la planète. C'est aussi protéger les êtres vivants qui y habitent. Voici 4 minutes de Madonna et Justin Timberlake.
Rebonjour, donc on est toujours avec l'association SOS Hérisson 49 avec Hélène de Roman. On reprend l'entretien et on voulait savoir comment vous gériez tous les... Parce que ça engendre quand même beaucoup de frais, donc comment vous gériez les frais pour les soins?
Alors au début, on n'avait pas de sous du tout, on vivait à crédit. Et justement, notre partenaire vétérinaire nous, nous faisait des avances et c'était pas facile. Aujourd'hui, on a énormément de dons. On a été reconnu d'intérêt général par le fisc. Hein. Donc, les dons sont défiscalisables, donnent lieu à une réduction d'impôts. On a beaucoup de dons en fin d'année à cause de ça. On a aussi des mécènes. On a des entreprises qui nous suivent, qui nous donnent de l'argent. On a des partenariats. On a un partenariat dont on est très fier. C'est le zoo de La Flèche, dont le vétérinaire emblématique, c'est une femme qui s'appelle Margot, ouvre en ce moment un centre de faune sauvage hérisson pour les soigner. On a aussi un partenariat avec le zoo de Douai-la-Fontaine. On a des partenariats emblématiques aussi avec France Nature Environnement, qui est une énorme association et qui actuellement fait une très, très grosse opération de communication sur le hérisson. On a aussi un partenariat avec la LPO. En fait, on est rentré un peu entre guillemets. Je veux pas du tout écraser personne ni dire de choses, mais on est un peu dans la cour des grands maintenant. Et on a un très très gros budget aujourd'hui. On n'a plus du tout de soucis hein, parce que les frais vétérinaires. Si on veut que des vétérinaires nous donnent le meilleur, si on veut utiliser leur plateau technique, il faut qu'on paye. Sinon, ils sont souvent associés. Et si un vétérinaire qui passe son temps à utiliser les couveuses, le plateau technique, les radios, les échographes, et puis qu'on ne paye pas, ses collègues vont lui dire « Écoute, tu ne rapportes rien, comment on fait pour payer ?» Donc, on paye. Ils font des gestes. Hein, ils sont très, très sympas. Mais on a un budget de 30 000 euros de vétérinaires par an. Et avec une très, très gros taux de mortalité, parce que là, par exemple, on vient d'avoir un hérisson qui est arrivé, c'est une petite jeune fille qui nous l'a amené en moto. Et il avait la tête complètement scalpée, mais surtout, il n'avait plus une seule dent à sa place et il avait la mâchoire complètement cassée. Et il était bourré d'asticots et il est mort sur la table d'opération après 48 heures où on l'a nourri à la pipette. On s'est énormément attaché à lui parce qu'il était un warrior, il avait vraiment envie de s'en tirer. Et à chaque coup, c'est des gros chagrins. Hein. C'est pas facile. Hein. Mais bon, on a de belles réussites. On vient de relâcher un hérisson qu'on a eu pendant un an, qu'on avait appelé Banane, parce qu'il était épluché comme une banane. On voyait l'os de sa tête. Et quand il est parti, il était magnifique. Et tout avait repoussé. Il n'avait plus une cicatrice. Donc, on a des gros échecs parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Mais on a de très, très belles réussites. Et en tout cas, moi maintenant, je me dis, il faut que j'arrête, je commence à être trop vieille, etc. Mais je ne peux pas arrêter parce que c'est vraiment une passion. Enfin, une de mes passions d'ailleurs, mais c'est une passion.
Et tout à l'heure, vous nous parliez, vous receviez beaucoup de mâles ou de femelles hérissons en détresse. Est-ce que combien vous en recevez exactement par an ?
Cette année, on va dépasser les 1500. L'année dernière, on était à 1300 et des poussières. On augmente tout le temps, entre 10 et 20%. Et je pense que, comme les gens sont de plus en plus sensibilisés et que les hérissons s'installent de plus en plus dans les villes et dans les quartiers, et comme il y a de plus en plus de gens qui cherchent à trouver des solutions quand ils trouvent qu'un hérisson est en détresse, ça ne va pas s'arrêter, en fait. Et puis, les gens commencent à savoir des choses essentielles. Par exemple, il y a une chose essentielle à savoir, c'est que le hérisson ne doit jamais être trouvé en plein jour. C'est un animal nocturne. Il ne voit rien, d'ailleurs. Il a une ouïe et un sens tactile extraordinaire, mais il est très, très myope. Il n'a pas besoin de voir, puisqu'il sort la nuit. Et quand on les trouve en plein jour, c'est généralement qu'ils ne sont pas bien du tout. C'est que soit ce sont des bébés abandonnés, soit ce sont des animaux adultes, mais malades ou blessés. Donc ça, les gens, c'est rentré maintenant, en tout cas en Maine-et-Loire, hein, parce que les gens nous appellent en nous disant « J'ai trouvé un hérisson dans mon jardin, il n'a pas l'air bien, qu'est-ce que je dois faire ?» Et puis on a un site internet sur lequel, comme beaucoup d'autres associations, on met des consignes. Aujourd'hui, celui qui veut chercher ce qu'il y a à faire, il trouve. Il y a 15 ans, ce n'était pas le cas. On est très aidé par internet.
J'avais une question. Tout à l'heure, vous parliez des bébés hérissons. Comment on les nourrit ? C'est avec du lait ou c'est
Alors, c'est le très gros problème. Parce que la hérissonne a un lait dans lequel il y a 0% de lactose et une quantité énorme de protéines. Et c'est tellement riche comme lait que les petits doublent leur poids toutes les semaines. Or, nous, on a du lait pour chaton dans lequel il y a 25% de lactose, ça les rend malades, et peu de protéines. Donc, c'est très, très compliqué. À partir d'un mois, et une semaine, on arrive à les nourrir avec de la purée de croquettes pour chats. Mais en dessous, ils ont des ballonnements, ils ont des diarrhées, ils meurent de carence, ils attrapent des virus, surtout quand ils n'ont pas tété assez pour avoir des anticorps maternels. Et je peux vous dire que nourrir au biberon des petits bébés qui dépendent de vous, qui piaillent comme des petits oiseaux et puis qui vous claquent dans les mains parce que c'est hyper fragile et que même en leur toussant dans la figure, on peut les rendre malades, c'est vraiment très compliqué. Mais bon, c'est le métier, si je puis dire.
Une dernière question. Est-ce qu'il existe, tout à l'heure, vous avez dit vous avez réussi à rentrer, enfin, vous êtes rentré dans ce monde par une association de la Somme. Et est-ce qu'il existe d'autres associations de hérissons ou d'autres animaux méconnus?
Oui, il commence à y avoir des centres de soins un peu partout. Tous les départements ne sont pas pourvus, mais il y en a à peu près dans 2 départements sur 3. Mais le problème, c'est qu'ils sont débordés. En Maine-et-Loire, il y a 2 associations. Il y a nous et puis une autre association toute jeune qui s'appelle Noctis et qui fait le même boulot que nous.
D'accord. Donc, il n'y a que vous deux dans le 49?
Oui, mais c'est énorme. Hein, parce qu'il y a des départements où il n'y a rien.
D'accord.
Et puis, on a des départements où il y avait quelque chose, mais il n'y a plus. Par exemple, en Mayenne, le refuge de l'Arche a fermé son centre de soins depuis quelque temps et... Ça nous perturbe beaucoup parce qu'on a toute la Mayenne qui nous appelle maintenant.
D'accord.
Eh bien, merci beaucoup, Hélène, pour ton témoignage.
Merci de m'avoir...
ton engagement.
Oui, mais merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer pour mes petits protégés.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
Et encore merci pour votre disponibilité. Et
à bientôt dans Les Engagés.
Eh bien, merci.
Merci à vous.
Merci. Thank you.